Les controverses du village, épisode numéro 10, quatrième et dernière partie de notre compte-rendu quotidien de la Comic-Con. Dans ce podcast, vous saurez tout sur la journée de dimanche avec moi-même, Sullivan Le Postec, Émilie Flamand,
bonjour,
Dominique Montet,
bonjour,
et notre invité, Karine Wittmann, d'Anusserie.
Bonjour.
Vous saurez tout dans le podcast, sauf si on meurt de manque de sommeil avant. Alors, donc aujourd'hui, donc là on est dimanche soir, vous écoutez ça, on est lundi, parce qu'on a pris un peu de retard dans la publication des podcasts, petit problème technique de notre côté. Donc aujourd'hui, c'était la grande journée avec l'invité d'honneur, Steven Moffat, qui a rencontré les fans de Doctor Who, et puis accessoirement de Sherlock, et accessoirement du reste de sa carrière de coupling à Jekyll, toute la journée, une conférence ce matin, une masterclass en fait, sur sa carrière de scénariste, des dédicaces cet après-midi, une conférence plus spécifiquement concernée, consacrée, en fait, c'est là le mot que je voulais dire, vous voyez la fatigue, à Doctor Who, dans laquelle il a fait quelques petites révélations, mais vous avez déjà vu ça sur le fil info alors qu'il est. Dites-moi, quelles impressions vous a fait cette journée, ces échanges avec, avec Steven Moffat, comment est-ce qu'il vous a paru, qui commence?
Il est super frisé.
Oh, t'es jaloux, hein?
C'est vrai que t'es pas aussi frisé.
Je suis beaucoup moins frisé que Steven Moffat.
Et il a un sacré accent, quand même.
C'est ça? Oh, ah, il a, ça passe. On comprend très très bien ce qu'il dit. Il est très drôle. Il est assez charismatique pour un scénariste.
Ouais.
Franchement.
Il est très charismatique.
C'est son point commun avec Russell Davis, d'ailleurs.
On comprend pourquoi c'est pas compliqué pour lui de diriger une série, parce qu'il a vraiment un aplomb. Et puis, on s'en était déjà rendu compte en le rencontrant avec d'autres journalistes, mais il a une faculté de répondre intelligemment à tout ce qu'on peut lui poser comme question. C'est un mec fondamentalement brillant et c'est rageant, en fait. C'est rageant.
C'est-à-dire que quand on assiste à une conférence avec Steven Moffat, on boit ses paroles, littéralement. Il n'y a pas un truc qu'il dit qui n'est pas intéressant ou en tout cas... Qui serait ennuyeux et qui permettrait de décrocher. C'est quand même des conférences en anglais intégrales. Le niveau de fatigue est dedans. On pourrait croire que par moment, on a une absence, mais non. Il capte l'attention et il a beau dire qu'il aurait bien aimé jouer le docteur quand il était gamin, mais qu'il ne pouvait pas être acteur. C'est un très bon orateur.
Et puis il est très fort parce que quand il dit pas quelque chose d'intéressant, il dit quelque chose de drôle. C'est assez impressionnant.
Et puis il réagit assez bien, il réagit au tac au tac avec les salles d'à côté qui hurlaient. Il s'est servi de ça pour la conférence cet après-midi. C'était plutôt marrant. Donc non, il est vif. C'est super agréable d'avoir quelqu'un qui rend autant aux gens. Ça fait plaisir, quoi.
Eh ben, c'est clair, moi je peux que abonder dans votre sens, vraiment, ouais, vas-y Karine.
Et je voudrais juste dire, très impressionnée par Alain Carazé et Romain Nigita, parce que, très sincèrement, excellente question, que ce soit ce matin, sur sa carrière, ou cet après-midi, il n'y a pas une question qui était pas bien, et j'en ai vu des conférences avec des journalistes, parfois c'est vraiment à se demander, mais là c'est pas le cas, c'est vraiment du niveau d'un Dalton Ross qui interview le cast de The Good Wife et la production de The Good Wife, vraiment très très contente que ce soit eux qui s'en soient occupés.
Oui, ouais. Parce que ça pourrait être assez frustrant en fait, parce que évidemment il y a énormément de journalistes ici, donc on veut pas non plus avoir tous une heure et demie avec Steven Moffat, et si en plus derrière les questions posées en conférence ne sont pas celles qu'on attend, alors que là si, c'était vraiment les questions qu'on attendait sur le docteur.
Ça, il y a une vraie nette, c'est vrai par rapport à d'autres festivals de séries, une vraie nette connaissance du public qui est dans la salle, ils savent que les gens qui sont venus voir Théon Meufrat, ils connaissent, ils ont vu, ils sont des spécialistes.
Ouais.
Et sachant ça et en ayant parfaitement conscience, ils n'ont aucune crainte à rentrer dans le vif du sujet sans passer par alors le docteur c'est qui, le docteur vous c'est quoi.
Présentez-nous le docteur.
Voilà. C'était pas de l'introduction, c'était du pointu, comme tu disais hier sur les interviews, c'était... C'est les gens qui sont là, de toute façon, on l'a vite vu, c'est les fans. Ils avaient tous vu la saison 6.
Ils étaient déguisés, certains.
Deux personnes qui sont sorties de la conférence quand ça a commencé. Quand Alain a annoncé, on va aborder la saison 6, ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne veulent pas savoir, vaut mieux partir. Deux personnes uniquement se sont levées. Ça vous donne une idée un peu du niveau de la salle.
Et puis aussi... la traductrice pratiquement pas du tout utile puisque tout le monde comprenait parce qu'en fait il parlait suffisamment lentement pour que et de façon intelligible pour que les gens comprennent ce qu'ils disent, ce qui est pas le cas de toute personne qui parle en anglais.
Ça se voyait très bien, tout le monde réagissait aux blagues, voilà. En anglais,
ouais.
Il a posé une question, levez la main si vous pensez que, toute la salle lève la main, tu dis ok c'est bon,
ça rassure en fait parce qu'on a toujours tendance à dire que les Français savent pas parler anglais
et
il faut savoir que toutes les blagues sorties par Stephen Moffat dans le temps réel, les gens riaient. Quand elles étaient traduites ensuite, personne ne réagissait. Donc ça voulait dire que les gens avaient compris dès la première fois. Quoi.
Mais il faut dire que pour le coup, elle avait quand même une sacrée tendance à détruire ou à oublier toutes les blagues.
Ouais, oui, les chutes étaient ratées.
Bon, on va en parler très très brièvement parce que en fin d'année, quand les 13 épisodes seront passés, on reviendra dessus. Mais il y avait la projection des deux premiers épisodes de la saison 6. The Impossible Astronaut and the Day of the Moon. Aujourd'hui, toi, Karine, qu'est-ce que t'as pensé de ces épisodes quand tu les as vus?
J'ai adoré ce début de saison, très différent et en même temps très familier. On n'avait pas l'impression, enfin, c'était à la fois très différent de ce qui était fait auparavant dans les premiers deux saisons et à la fois pas du tout différent, on rentrait dedans quoi. Et je suis c'est mes deux épisodes préférés de cette saison, donc voilà, parce que j'aime beaucoup. J'étais vraiment super contente et bon, évidemment, j'ai absolument pas le début de scène. Alors, je sais pas si on a le droit au spoiler
sur ces deux épisodes. C'est bon,
c'est
vous l'avez pas vu, faites avance rapide, mais vous
ouais.
L'avez vu.
Si vous avez lu les critiques de Sullivan, vous connaissez tout l'épisode.
Vous avez toutes les révélations de la première partie.
Donc j'ai pas pensé une seule seconde qu'il était mort au moment de cette scène. Donc, pour moi, elle est un peu tombée à l'eau, mais parce que c'est pas possible. Même 300 ans plus vieux, c'est quelque chose qui viscéralement est pas possible pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'il peut pas mourir et qu'il a pas le droit de le faire mourir, voilà, c'est simple. Et
ouais,
puis
je trouve que ça va plus loin en fait. Enfin, tout le monde sait qu'il s'est pas fait vraiment tuer dans cette scène-là.
Pour autant, tu te prends...
Mais ce qui est malin, c'est que tu te poses pas la question. Ah, mince, est-ce qu'il est mort? C'est comment il va s'en sortir de ça, scénaristiquement parlant.
C'est ça,
c'est le réflexe.
Tu te prends une baffe déjà, et après c'est ça.
Voilà.
Mais non, mais moi, j'ai pas vu ça.
Comment il va faire?
Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même de jouer la réaction des autres personnages qui, eux, croient sincèrement à la mort du docteur, notamment Amik et Karen Gillan, qui peut être... Et elle le prouve justement dans cette scène, une excellente actrice qui, c'est mon avis personnel, n'est pas forcément dans tous les épisodes, mais elle a du matériel à jouer qui est très très compliqué. Et là, elle est brillante. Alex Kingston est brillante aussi, et Arthur Daville est.
Ouais, j'ai adoré le père de Shepard que j'ai. Principal, le père, je l'ai trouvé absolument génial, et je trouve que c'est. J'ai trouvé le clin d'œil vraiment sympathique, le fait de faire jouer le père et le fils dans la série pour jouer le même rôle, et je trouve ça super charmant.
C'est clair. Que ce soit ce double épisode là ou même le final de cette demi-saison, tous les épisodes de Moffat depuis le final de la saison 5, c'est des énormes morceaux de bravoure où il y a du contenu en fait d'idées pour 3, 4 ou 5 épisodes. Il en met vraiment beaucoup à chaque fois qu'on a l'impression qu'il a peur de que ces épisodes soient considérés comme un petit peu faiblards, donc il en met des tonnes. Ça passe très très bien dans le double épisode d'entrée en matière, on en parlera très certainement plus tard. C'est tellement dense sur le dernier que ça, on aurait aimé un double épisode pour la fin. Mais bon.
Mais là où j'ai été étonnée pour revenir à la conférence, c'est qu'il disait que l'épisode de Neil Gaiman a été déplacé d'une saison à l'autre.
Ouais.
Mais c'était donc
il devait être dans la 5.
En saison 5. Ouais.
Ah, moi il me semblait, je pensais
à la place
que...
de The Lodger en fait.
D'accord, ok. Celle-ci, j'étais un peu surprise, je savais pas donc.
Excellent l'honneur.
Lodger, tu veux dire?
Ouais.
Non, non,
il veut dire Lodger.
L'épisode
ah non,
de
Neil Gaiman.
Les deux sont intéressants.
C'est Dr. White.
Oui, les deux.
Ok. Ouais, je ne savais pas. Je croyais que c'était prévu comme ça depuis le début.
En fait, ils étaient prévus pour la fin de la saison 5, mais c'est un épisode très très coûteux à produire. Ils n'avaient plus d'argent. Et Lodger, c'est un épisode qui est dans un appart, quoi.
Oui, tout à fait.
Qui coûte rien. Ils n'avaient plus d'argent et ils ne voulaient pas le sacrifier un peu.
Et en
donc,
même temps,
du coup, ils
Gordon,
l'ont...
c'est parfait.
Voilà.
Gordon,
c'est... Et du coup, ils l'ont reporté à la saison d'après, ce qui fait qu'il y a eu quelques petites modifications de script. Parce qu'à l'époque de la saison 5, Rory était mort pendant cet épisode. Donc du coup, il a fallu le réécrire en remettant Rory dedans. Et voilà, il rajoutait notamment la fameuse mort de Rory dans cet épisode-là.
Ouais, c'est un peu comme c'est leur Kenny, quoi.
Mais il y a des pages Facebook, hein, de toute façon. Oh my god, c'est qui le Rory.
D'accord.
ils les ont.
On a eu droit à cette question-là.
C'est qui le Rory de Bastards.
Avec une réponse intéressante.
Avec une réponse très intéressante.
Confirmer que tout ça nous menait quelque part. Allez, on enchaîne pour essayer de ne pas vous faire un podcast de 3h30 parce qu'on en est
ça
capable.
On a fait, on peut parler de la conférence qu'on a vu, on a fait nous juste après, parce que
nous
on a
oui,
fait
aussi.
Le sitting. On a fait le
sur les effets spéciaux.
Sur les effets spéciaux avec
les studio.
Oui, qui s'occupe du blog Motion Blur.
Mm-hmm. Et qui, par exemple, ont fait les effets spéciaux d'empreintes criminelles.
Exactement.
Pour recréer le Paris d'époque.
Globalement, dès qu'il y a eu des effets de ce type sur les séries Making Prod, a priori, ils étaient dedans. Ils ont fait aussi des unitaires pour TF1, des courts-métrages.
Ils ont parlé du budget aussi, savoir combien en France ils consacraient au budget, effets spéciaux, par rapport au reste du budget. Donc c'est 1 ou 2% sur les séries, à peu près. Sur Empreinte criminelle, à mon avis, on n'est pas dans le même rapport.
Ouais, on n'est pas sur la même façon d'aborder les séries non plus.
Oui, voilà. Mais sur Empreinte criminelle, en revanche, ils sont pratiquement tout a été
mais,
fait.
Mais c'est voilà. Et après, c'est
pas Mimimati ou Julie Lescaut.
Ce qu'il expliquait, c'est qu'il y avait aussi une, on va dire que il y a la façon d'aborder les effets spéciaux qui est, on prend un script, on regarde là où il va falloir des effets spéciaux et on va faire un devis là-dessus, et forcément ça veut dire qu'il faut des choses un peu grandiloquentes, et il y a eux cette approche qui est, on leur fournit un script et dedans ils le dépouillent pour repérer tous les points où ils peuvent faire économiser en fait à la production de quoi réduire le budget et donc permettre de débloquer du budget pour faire des effets si nécessaire. Donc il y a cette notion de production value qui est assez intéressante dans le travail qu'ils exposaient.
Je trouve ça absolument terrible ce que tu me racontes, parce que c'est juste la preuve, c'est pas une révélation, je le sais au fond, mais c'est juste la preuve qu'il y a qu'il y a presque pas de producteur en France digne de ce nom qui bosse à la télé, quoi.
Ouais.
C'est le travail d'un producteur que tu me racontes. On doit pas sous-traiter à une boîte d'effets spéciaux de scanner les scripts pour savoir où est-ce qu'on économiserait de l'argent sans des effets spéciaux. Putain, c'est le boulot d'un producteur, quoi. Et c'est pour ça que la télévision anglaise a les production values qu'elle a, alors qu'ils ont le même budget que nous, et qu'on voit qu'avec le budget où nous on fait un truc qui se passe dans deux rues et dans un appartement, fais pas ci, fais pas ça, et avec le même argent ils font Doctor Who, quoi. Et des fois on s'arrache les cheveux, on se dit mais putain, mais comment ils font pour... Et ben comme ça, quoi. Je veux dire, tu lis les scripts de Doctor Who, ancienne époque, nouvelle époque. À chaque fois qu'il y a le scénariste lui-même, je veux dire, avant même d'entrer dans la prod, il tape FX quand il sait que ça va être un plan numérique. Après, il en rediscute avec la prod. Il y a des producteurs qui sont dans la chaîne. Ils savent, la chaîne de production s'est déjà préparé ça.
Mais
quoi.
C'était Damien Maric. Damien. On va dire Damien, oui, Damien, qui a parlé de l'âge des gens à qui ils ont leur interlocuteur. Mmh. Et donc, il disait encore aujourd'hui, à la télé, c'est 50 ans. Il va falloir. Alors qu'en Angleterre, évidemment, c'est plus même. Ils ont 30 ans.
C'est ça, les prods ont 30 ans.
Voilà. Et donc, c'est le fait qu'aujourd'hui, encore, on ait encore des gens de 50 ans qui ne comprennent absolument rien au système de financement.
C'est surtout ça.
C'est plus ça.
C'est qu'ils ne veulent pas s'adapter.
Ils n'ont pas envie
parce qu'ils
de changer.
Ils en sont parfaitement capables. Si l'envie y est, ils peuvent se mettre à la page sans aucun problème.
Tu peux pas me dire que t'acquises que Candivis serait capable de changer.
Non, mais il y a une différence.
C'est une question d'attitude. C'est une question de volonté.
Vouloir changer, ça voudrait dire prendre un, c'est quand même une prise de risque, c'est changer des méthodes de travail qui sont rodées, des équipes, etc. Et il y a un certain âge, etc. Donc ça, ça peut être bloquant. Et quand tu as globalement une industrie où tout le monde est d'accord pour essayer de ne pas changer la situation, forcément, c'est beaucoup plus pépère.
Il a parlé d'un truc qui a un peu choqué Émilie. Il parlait de l'émission Mystère sur les phénomènes paranormaux, qui faisait 14 millions. Il parlait de segmentation au niveau de la pub, les annonceurs, c'est-à-dire donc, la façon donc, qu'une série serait rentabilisée par la segmentarisation, donc la démographie 18-49, ménagère, etc. Et donc il disait, Mystère a été annulé, alors que ça faisait 14 millions de téléspectateurs, parce que les annonceurs ne pouvaient pas...
Ne trouvaient pas leur case, identifier
leur cible. Donc, ils préféraient faire Julie Lescaut à 7 millions, mais ils savaient qu'ils avaient 7 millions de ménagères, alors qu'en fait, ils étaient en train de perdre 14 millions de personnes. Parce que et quand tu entends ce genre de logique, tu te dis, non, mais il y a un petit problème, là. Tu as 14 millions de personnes. Qu'est-ce que tu en as à foutre que ce ne soit pas celle qui a le portefeuille? Parce que de toute façon, il y en a bien un qui aura le portefeuille dans la maison et qui pourra dire, ah, j'ai vu les gâteaux, les guet-apens qui viennent de ressortir au supermarché.
C'est ça,
quoi.
Surtout que, du coup, Mystère, c'était un reality show des années 90. J'étais au collège ou au lycée à l'époque où ça passait, je le regardais, tout le monde dans le collège, tout le monde dans le lycée le regardait. C'est dans n'importe quel pays, autre pays que la France, les annonceurs s'arracheraient la possibilité de toucher ce public-là, quoi. On est dans un pays de fous.
C'est surréaliste parce qu'à la base, en plus, leur but, c'est de séduire le plus large public possible. Et on leur reproche justement de ne pas faire de segmentation.
Ce qui m'a choqué un peu, c'est pas le fait que... C'est pas la réponse qui a été faite. Enfin, si, plus ou moins. C'est-à-dire que, franchement,
annuler ça,
je ne suis pas. Ça me semble bizarre. Je me dis qu'il y a peut-être autre chose derrière.
C'est pas étonnant de la part de TF1.
Non, je serais pas étonnée.
Non, après, sur la segmentation et sur le fait que ce soit dépendant de l'annonceur, ça, c'est clairement, on le sait, c'est pas la question de l'audience. C'est, ils peuvent avoir de l'audience, s'ils n'arrivent pas à vendre les créneaux, ça les intéresse pas. Et un créneau, ça a une valeur en fonction de la catégorie socio-professionnelle que tu as en face.
Et la régie pub de TF1, elle est entraînée à vendre de la ménagère. Ouais. Elle n'a pas les contacts pour les annonceurs qui voudraient autre chose. Elle n'est pas habituée à faire fructifier ce type de catalogue. Surtout, encore moins à l'époque, au milieu des années 90, où c'était le TF1 qui faisait 50% de part de marché. Donc c'était ménagère. Aujourd'hui, ça a peut-être un peu évolué parce que, en l'occurrence, par exemple, la régie pub de TF1, quand ils vendent Secret Story, là, par contre, ils ont dû développer un... Là, pour le coup, c'est un programme segmenté, quoi, en termes de public.
D'où l'idée que le fait qu'il y ait 14 millions, mais qu'il ne soit pas assez segmenté pour que ça puisse intéresser les annonceurs, c'est peut-être que plus que derrière, il y a eu une mauvaise gestion de la régie pub de la chaîne, que parce que le fait en lui-même... Enfin, il y a d'autres choses autour. Il n'y a pas que ça.
En même temps, on n'est plus dans la même époque. Donc, il y a aussi de ça qui est une évolution.
Au niveau de la façon dont fonctionne cette économie-là, il n'y a pas eu de grand changement.
Okay.
Bon, un petit follow-up au podcast d'hier.
Voilà.
On a parlé de la présence ici de Making Prod qui présentait à peu près toutes ces séries. Et tu as eu l'occasion de discuter avec Stéphane Drouet,
l'un des producteurs
de Making Prod.
J'ai réussi à attraper Stéphane Drouet à la fin de l'événement La Chanson Dimanche pour lui poser une petite question dont je vous en avais parlé hier. Ce qu'ils entendaient par passer potentiellement Les Invincibles en 26 minutes s'il y avait une saison 3. Donc, puisque je ne voyais pas notamment comment tourner Les Invincibles, qui certes a de la comédie, mais sur la saison 3, avec quand même ceux qui connaissent la série canadienne plus sombre, enfin pas sombre, mais plus dur à vivre. En l'occurrence, j'avais peur que ça passe sur de la sitcom et ça partirait plutôt vers du 26 minutes, un peu comme on peut avoir l'utilisation du 26 minutes sur Californication, etc. Ouais. Voilà. Donc, au moins, ça, c'est le petit point en passant. En passant, La Chanson du Dimanche est renouvelée pour une saison 2.
Juste pour Les Invincibles, est-ce qu'il t'a dit un petit peu plus? Est-ce qu'ils vont se démarquer
non.
de la série canadienne
C'est aussi possible. Ils savent pas encore. Ça tout va dépendre de la saison 3. En fait, s'ils ont une saison 3, ils sont en train de réfléchir au format qu'ils vont proposer et au contenu qu'ils proposent.
D'accord.
C'est-à-dire, est-ce que ça va être exactement la même chose ou est-ce que justement ils vont bifurquer pour potentiellement prolonger quoi? C'est
encore
à l'étude. Les deux possibilités sont voilà.
Parce que là, défi structurel. Hein. S'ils font la même chose qu'une série de 52 minutes en 26 minutes.
Voilà.
Très bien.
Désolé pour le bruit, hein. C'est le démontage qui commence. Nous sommes en fin de Comic-Con.
On va nous jeter par la fenêtre dans pas longtemps.
Pour terminer cette journée de dimanche, pour terminer cette Comic-Con, il y avait projection en avant-première du premier épisode de la série Falling Skies, série de SF qui vient de commencer tout juste il y a 2 semaines, je crois, aux États-Unis. C'est une série de quelle chaîne, dis-moi Dominique?
TNT,
avec Noah Wiley, les extraterrestres. Non pas débarquent, mais ont débarqué, c'est peut-être l'originalité de la série.
Bon, alors c'est Steven Spielberg qui produit, ça raconte l'histoire d'un père et de ses 3 enfants, père veuf.
Suite à l'invasion.
Donc un de ses fils a été enlevé par les extraterrestres, donc il y a ça qui vient s'ajouter au fait que son fils est devenu un militaire, que lui à la base c'était un prof d'histoire, devenu plus ou moins militaire, un peu plus en charge des civils qu'autre chose.
Parce qu'il a la culture historique.
Il a une culture historique, voilà.
Des stratégies militaires.
En fait, moi, ce que j'ai trouvé, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, mais j'ai trouvé qu'il avait un rôle un petit peu transversal, en fait.
Ouais.
Du coup, il est un pied dans les deux univers. En ça, son personnage est intéressant parce qu'il nous permet d'avoir les 2 points de vue. Parce que d'un côté, il a une attitude très militaire, il dirige une équipe, tout ça. Et d'un autre côté, il a une attitude aussi de civil et il est là pour les suivre. Globalement, niveau qualité, on ne peut pas vraiment se faire une grande idée sur le premier épisode. C'est à la fois bateau, ça raconte pas grand-chose et c'est assez cliché, en fait, sur le premier épisode. Après, il y a quelques petites choses intéressantes, mais il y a des grands moments, comme, évidemment, l'un des 2 frères qui tombe sur son frangin dans un groupe d'esclaves. En fait, les extraterrestres récupèrent des humains pour les faire esclaves en leur collant un appendice sur eux. Enfin,
voilà. En fait,
et ils tombent dessus par hasard.
Il y a une petite préquelle en comics qui explique l'enlèvement du...
D'accord.
D'un des frères, en fait,
ouais.
qui au départ il y a lui et ses donc 3 enfants, et il y a donc un de ses enfants qui est kidnappé. Il y a un camp où ils sont qui est attaqué. Il veut planquer les enfants qui partent en avant pendant que lui aide. Un des gamins se fait kidnapper, et en fait, on comprend qu'ils font quelque chose à ces gamins à ce niveau-là, mais on sait pas encore quoi.
Mais moi, ce que j'ai trouvé un petit peu gros, c'est que au détour d'une mission qui n'avait rien à voir avec ça, l'un des frangins tombe évidemment dessus. C'est un peu...
Mais en même temps, tu comprends que pour l'instant, on est super situé sur Boston.
Ouais.
Pratiquement toute la ville a été plus ou moins rasée puisqu'il y a une onde magnétique, donc il n'y a plus rien qui fonctionne, pratiquement. Donc en fait, ici, il y a les survivants, c'est-à-dire eux, par petits groupes, et les extraterrestres qui surveillent leurs esclaves.
Ouais.
Donc c'est à la limite... T'as raison, c'est un petit peu gros, mais en même temps, ça n'est pas tant que ça.
C'est pas illogique.
C'est pas illogique.
Oui, on peut se dire, oui,
c'est pas déraisonnable.
Voilà, oui, c'est pas comme si normalement il était en Floride et que. D'un coup,
oui, voilà. Tu restes dans une ville, c'est la ville qui est attaquée. Tu sais pas, au moment du premier épisode, tu sais pas ce qui s'est passé ailleurs. Voilà.
Enfin, dans le scénario, j'ai pas trouvé de piste qui me tendait à prouver qu'en effet il se rapprochait d'un camp d'esclaves ou quoi que ce soit, donc il n'y a rien qui m'amenait à ça. Du coup,
non, tout ce que tu vois, c'est qu'ils servent d'esclaves et tu sais pas pourquoi,
bien sûr.
Voilà.
Ça, oui, y a pas de problème.
Donc,
mais après, je dirais, faut donner sa chance. C'est une
parce que c'est très très bien produit,
c'est clairement une série d'été dans le sens où c'est quand même plutôt léger. Ça n'a pas l'air hyper complexe à l'origine.
En même temps, c'est TNT, donc tu...
Voilà,
c'est
du câble basique, la TNT, la chaîne TNT.
Ouais. We know drama, ça, c'est leur slogan.
Oui.
Donc c'est très différent de ce qu'ils font.
Oui, tout à fait.
Puisqu'ils font de la science, jusqu'à présent, ils ont fait du formula show, policier ou médical, puisqu'ils ont aussi Hawthorn avec de Jada Pinkett-Smith. Une catastrophe, et voilà, je leur ai dit au moins.
Mais ils font Men of a Certain Age, il me semble.
Ils font aussi des trucs extraterrestres, une série ovni.
Oui.
Men of a Certain Age, c'est complètement ovni.
Oui, tout à fait.
Je sais même pas si Orange pourrait la diffuser, tu vois. La façon dont tu as raconté l'invasion par les gosses, je trouve que c'est génial. T'as pas besoin de
voir les dessins. Oui,
oui, oui. J'ai trouvé ça fantastique.
Tout à fait. L'entrée en matière
est superbe. Il l'avait diffusé déjà même longtemps avant le début de la série.
Mais tu savais, tu ne savais pas vraiment que ça ne serait raconté que de cette façon-là. On te disait oui, ça va commencer 6 mois après, mais on te disait pas plus que ça. D'accord. On aurait pu avoir un flashback.
Ouais, non, moi je m'attendais pas de façon à avoir. En fait, j'avais vu le début jusqu'à aux premières scènes d'action, donc ils avaient mis comme ça. J'ai pas eu le temps encore de voir les épisodes et j'ai lu les comics. Pardon.
Donc non, moi j'étais plutôt surprise de façon agréable de la façon dont ils ont raconté l'invasion et j'ai trouvé ça vachement différent.
Allez, pour terminer Comic-Con, nous évidemment puisque c'est notre PG Mignon, on vous parle beaucoup de séries, mais il y a aussi d'autres événements, notamment du cinéma. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Vous avez vu un film cet après-midi, une avant-première, un film de John Landis, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, le titre français, c'est Cadavre à l'appel, et le titre anglais, c'est...
Burke and Hare.
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 Comme le lièvre.
Avec l'ami Simon Pegg.
Voilà, le lien avec le village, il est là.
Et Andy Serkis, pour les fans du Seigneur des Anneaux.
Mais moi, il a pris du poids depuis. Hein. Il a grandi.
Il retourne.
Il a le train beaucoup plus frais, par contre.
Hein. Beaucoup plus. Ouais.
Mais moi, j'ai un gros girl crush sur Simon.
Sur Andy Serkis.
Non, j'allais dire.
Non, sur Gollum.
Je commençais à ouvrir les yeux grands comme
precious.
Ça.
J'adore les petits gars verts, tout mec.
Non, j'ai un girl crush sur Simon Pegg depuis Paul. Alors, j'ai beaucoup de mal à. J'ai beaucoup de mal à être objective quand je le vois à l'écran.
Non, mais c'est un film sympathique. Après,
tu devrais lui demander s'il a pris du muscle. Tu comprendras pourquoi. Si tu écoutes le podcast d'hier.
Voilà, c'est l'association de nom John Landis, grand réalisateur de série B à travers les âges. De l'autre côté, Simon Pegg. En fait, il aurait fallu que Simon Pegg rencontre le John Landis d'il y a 30 ans pour faire un film formidable. Là, c'est un film agréable. Après, on peut théoriser longtemps sur le fait que les deux personnages principaux, dès la 10e minute de film, se disent « Eh ben, si on tuait des gens pour vendre des cadavres ?» qui est un mode de fonctionnement, on va dire, un petit peu étrange, pour ne pas dire...
Moi, j'ai trouvé la scène où il commence à tuer des
Je suis pas convaincue que ce soit... Moi, en même temps, si tu veux, je rapproche ça à Shaun of the Dead... Les zombies débarquent, où est-ce qu'on va être en sécurité? Au pub. Pareil, le mode de réflexion est quand même...
Je croyais que t'allais dire, le fait de tuer des gens, ça te dérange pas, mais... C'est...
Non, ça c'est... À la rigueur, je pense que j'ai quelques potes qui en effet me diraient...
Faut que tu changes de boulot.
Normal. Non, mais le fait que très vite on arrive vers la dérision certaine ne me choque pas.
Mais j'ai trouvé quand même la scène où il commence à tenter de tuer des gens pour récupérer du fric. J'ai trouvé qu'elle était quand même assez drôle, même si elle était prévisible.
Il tue très mal. Hein.
Oui, ça
il
c'est sûr.
Très mal. c'est pas des pros du meurtre.
Ils y vont avec le couteau et la faucille. Et
j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin là-dedans et qu'ils se disent bon, faut pas qu'on tue directement, faut qu'on tue indirectement et qu'ils mettent en place de sortes de pièges pour que ça soit des accidents. Tu sais, là,
mais
ça m'aurait fait beaucoup plus rire. En
peut-être.
Fait.
Mais quand même, effectivement, tu as raison, c'est prévisible. Visible, ouais. La scène où ils font tomber quelqu'un dans l'escalier et le type il se relève. Alors évidemment, tu vois le venir à 30 mètres. Le type qui meurt d'une crise cardiaque au lieu de mourir avec la faucille aussi. Mais c'est en même temps, c'est typiquement charmant quoi. Et le faire par amour surtout quoi. Parce que c'est ça.
Puisque c'est une histoire d'amour.
Parce que Simon Pegg le fait principalement. Parce qu'il est tombé amoureux d'une actrice qui veut mettre en scène un Macbeth féminin.
Une très mauvaise actrice. Enfin, pas une mauvaise actrice, la vraie actrice, non.
Elle joue une très mauvaise actrice.
Okay.
Bon, très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 4 jours du Comic-Con. Comme je pense que vous l'avez remarqué, on a mis en ligne pas mal de contenu, mais le mieux, c'est qu'il en reste encore à venir. On a des vidéos avec des interviews du cast de Merlin. On a la vidéo d'interview de Gail Ann Hurd. Après 4 jours, j'ai réussi à dire son nom. Des conférences, des comptes rendus de conférences.
Ouais, Merlin, Metal Hurlant Chronicle, le commentaire audio de l'épisode d'Hérocorp, les Docteurs Who.
Donc voilà, en gros, vous n'avez pas encore tout à fait fini d'entendre parler de nous et du Comic-Con. C'est-à-dire que pour nous, c'est quand même le dernier podcast de la saison. On va donc vous souhaiter un bon été. Et puis, on se retrouvera à la rentrée, comme à la rentrée précédente par un podcast spécial où on débriefera nos devoirs de vacances. Sauf que comme on a beaucoup trop travaillé pour le communiqué, on n'a pas eu le temps de se mettre d'accord sur les devoirs de vacances. Donc vous découvrirez à la rentrée ce que seront nos devoirs, on ne va pas pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui.
Surprise.
Exactement. Et ben merci Karine d'avoir participé avec nous à ce podcast.
Pas de quoi, même si j'ai encore la trace du revolver sur la tempe.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Bonjour chez vous.